les amis des livres et des apéros de 2017. Le secret, c'est mal. La transparence, c'est bien. Nos élus doivent déclarer leur patrimoine, nos dirigeants doivent révéler leur salaire, nos politiques doivent afficher la bonne santé de leur couple ou leur ambition intime, si chère à Karine Le Marchand. Il paraît qu'un président ne devrait pas dire ça, mais il le dit, et mieux, il le publie. La transparence rime avec sincérité, elle rassure. D'ailleurs, les vitres teintées des voitures vont être interdites et c'est pas pour rien. Honte au caché, gloire au visible. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mais ça va pas, non, tempête la littérature. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est transparente, cette Dupont-Mono. Regardez du côté des livres. Sans le secret, il n'y aurait pas de littérature. Et est-ce qu'il existe une littérature de la transparence? Hein? Ben non, et c'est pas un hasard. C'est bien le secret, la base de ce merveilleux roman, Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig. Edmond Dantès, il se cache derrière le comte de Monte Cristo pour renaître. Romain Gary s'est caché derrière Émile Ajar. Et aujourd'hui, qui se cache derrière Elena Ferrante? La littérature entière est une partie de cache-cache, l'exercice du double jeu, le tapis d'éveil du secret. Encore une preuve, mais elle est là, elle s'appelle Théa. C'est un roman bâti sur des secrets, il est signé Mazarine Pinjot, publié chez Julliard. Ça commence par un coup de foudre dans les années 80, celui d'une jeune fille prénommée Joseph, avec un E, qui se trouve à une fête. Nous avions l'air joyeux et insouciants, ce qui est normalement incompatible avec des trotskistes en colère, écrit Mazarine Pinjot. En bordure de la piste, il y a un garçon. Il est argentin, réfugié, il s'appelle Antoine. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit. Joseph tombe amoureuse de lui et elle tombe aussi dans un gouffre de secrets. Et ce gouffre lui-même se révèle à double fond. Plus Joseph avance à tâtons dans son histoire avec Antoine l'exilé, plus elle réalise que ses parents sont habités du même chagrin. Ils habitaient l'Algérie, ils ont dû partir, ils n'en parlent jamais. Et puis d'ailleurs, qu'ont-ils fait au moment de la guerre d'indépendance? De quel côté étaient-ils? Prise en tenaille entre deux grands A, l'Argentine et l'Algérie, entre un réfugié et un père qui a la conscience un peu trop lourde, Joseph réalise qu'il serait peut-être trop simple de parler de victimes et de bourreaux. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Mazarine Pinjot et on n'aura pas la bouche cousue. Elle nous livrera ses secrets d'écriture, à voix basse, nous révélera ses vices culturels comme on donne les clés d'un coffre, ce sera Les Inavouables, avant qu'une libraire ne vienne à son tour apporter sa lumière.
France Inter, l'amuse-bouche, Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Mazarine Pinjot.
Bonsoir.
Un écrivain français qui écrit sur l'Argentine, c'est pas si fréquent. Qu'est-ce qui vous a poussé dans les bras de ce pays ?
Alors, ce qui m'a poussé dans les bras de ce pays, c'est certainement pas de le connaître, parce que j'y ai jamais mis les pieds. En revanche, j'ai une grande amie argentine, donc je connais un petit peu par ses récits familiaux et ses récits d'enfance. Mais ce qui m'a surtout poussée vers l'Argentine, c'est l'histoire de la dictature et essentiellement au départ, en fait, alors que ça n'est pas si présent que ça dans le livre, les grands-mères de la place de Mai qui cherchaient les enfants disparus, ceux qui sont nés en captivité de parents qui étaient eux-mêmes captifs et qui ont disparu. Et ces enfants ont été ensuite récupérés par les bourreaux de leurs parents. Et on en découvre encore aujourd'hui à la faveur de nouveaux tests ADN qui ont été d'ailleurs créés à la demande justement de ces grands-mères de mais pour trouver des liens transgénérationnels entre ces petits-enfants et les grands-mères qui cherchent non plus leurs enfants parce qu'elles les savent disparus, mais en tout cas leurs petits-enfants.
Ils avaient enlevé ma fille qui était enceinte de 8 mois et j'étais très pressée de la retrouver parce qu'elle devait aller en clinique pour donner naissance à son bébé.
L'État a pris nos petits-enfants, un État illégitime, assassin, mais l'État quand même.
Retrouver chacun de nos petits-fils, ça relève du miracle. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Nous ne savons pas où ils sont, à qui ils ressemblent, comment ils vivent. Qui leur a donné un faux nom ?
Les grands-mères de la place de Mai et les mères de la place de Mai dont vous parliez, Mazarine Pinjot. Ce qui vous intéresse dans ces femmes réunies sur la place de Mai, c'est le fait qu'elles veuillent lever le secret.
Oui, c'est-à-dire que la dictature en Argentine a travaillé comme méthode sur la disparition. C'est-à-dire que faire disparaître les corps, faire disparaître les ennemis de l'État, c'est-à-dire en l'occurrence à l'époque les gauchistes, enfin beaucoup d'étudiants qui militaient à gauche, Faire disparaître empêche le deuil, empêche la possibilité de statuer sur un monument aux morts, un nom. On efface, quoi. On efface de l'histoire. Et cet effacement est littéralement fascinant, à la fois atroce, parce qu'effectivement, on voit mal, et on le sait, même dans un schéma individuel, comment c'est difficile de faire un deuil lorsqu'il n'y a pas de corps, lorsque un marin est perdu en mer. Bon, là, en l'occurrence, c'était une stratégie d'État. Stratégie d'État qui a eu lieu aussi pendant la guerre d'Algérie. Et donc, la question, c'est, à partir de la disparition, qu'est-ce qu'on fait? Comment on statue? Comment on raconte son histoire? Qu'est-ce qu'on transmet? Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, d'une certaine manière, il y a un blanc, quoi, dans l'histoire, qui fait que c'est très difficile pour essayer d'envisager l'après. Donc voilà, c'est ces questions-là qui m'ont mené à travailler sur l'Argentine, même s'il n'est pas à proprement parler question des grands-mères de la place de Mai.
Alors, votre livre s'est donc construit à partir d'un blanc. À l'époque, on est au début des années 80. L'Argentine, finalement, n'a jamais connu que 3 ans de démocratie. Et la cause argentine agite quand même les milieux militants. Votre Joseph, avec un E, c'est-à-dire l'héroïne du livre, elle fréquente ces milieux militants de gauche. Ils sont décrits assez prévisibles, un poil sectaire, assez inféodé au chef, assez apparatchik. Vous n'êtes pas très tendre avec ce militantisme de gauche des années 80.
Oui et non, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est une description un peu drôle, ironique, mais tendre malgré tout, parce que les amis de Joseph, c'est plutôt des personnes qu'elle aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un petit peu des militants de papier, quoi. Ils manient plus facilement le verbe que les armes.
Leur drame, c'est de ne pas avoir connu mai 68.
Sans grand drame. Exactement. Grand drame. Exactement. Ils sont un peu dans une génération intermédiaire pas reluisante dans l'histoire. Et quelque part, ils sont soit dans la nostalgie d'un avant et en même temps dans l'attente d'un futur, d'un grand futur, d'un grand avenir, à l'heure où les idéologies sont en train de se casser la gueule. Donc c'est pas facile pour eux non plus.
Alors il y a le petit clin d'œil, évidemment, qu'on lit puis on sourit. Vous écrivez « Les âgés, les précaires, la révolution, j'en avais marre. Ils s'amusaient beaucoup moins, les militants, depuis que Mitterrand était au pouvoir. » Pourquoi ils s'amusaient beaucoup?
Parce que la gauche arrivant au pouvoir, tout à coup, ça leur coupe l'herbe sous le pied, quoi. Enfin, c'est plus difficile d'être dans l'opposition, même si on sait bien que l'extrême gauche a toujours été beaucoup plus virulente vis-à-vis du socialisme concret que finalement vis-à-vis de ses ennemis. On le voit parfois encore aujourd'hui, hein, que l'extrême gauche est plus dure vis-à-vis de la gauche que vis-à-vis de la droite. Mais c'est sûr que d'une certaine manière, le fait que la gauche arrive au pouvoir, ça limite un peu le fantasme, quoi.
Cet Antoine, donc, c'est l'Argentin réfugié, devant lequel tombe en arrêt Joseph, et elle se heurte à un gros problème, c'est qu'il se tait. Il ne parle pas de son passé de militant. Pourquoi ?
D'abord, il est encore en clandestinité, même s'il est exilé et qu'il n'a plus vraiment lieu de l'être. Il me semble que lorsqu'on est clandestin, c'est difficile de sortir de son costume de clandestin pour retrouver une vie normale. Antoine, c'est quelqu'un qui effectivement a un autre prénom et qui a gardé son prénom de clandestinité et qui de ce fait est dans une problématique double, c'est-à-dire que à la fois tout son passé appartient à un pays qu'il a fui et dans lequel il n'est pas sûr de pouvoir revenir un jour, ce qui rend l'histoire d'amour compliquée, parce que c'est aussi l'un des grands thèmes du roman, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en sursis, c'est-à-dire quand on est en exil, il est possible qu'on revienne, mais quand, on ne sait pas, et c'est quoi s'engager dans une histoire, s'engager dans un lieu, construire quelque chose, alors qu'à n'importe quel moment, le cours de l'histoire peut changer, et donc aussi changer votre propre destin individuel.
C'est là où la souffrance silencieuse d'Antoine, ce personnage, ramène à celle de Vaclav Havel, de Pablo Neruda, un peu de Solzhenitsyn aussi, c'est-à-dire que c'est la figure du réfugié d'une dictature, mais surtout de l'exilé. Qu'est-ce qui vous touche autant dans cette figure de l'exil ?
C'est ça, c'est d'être à la fois loin d'une terre maternelle, et la terre, ses odeurs, ses parfums, ses couleurs, enfin, c'est quelque chose qui participe de notre épaisseur, de notre étoffe, sans qu'on s'en rende bien compte. Ça, plus la langue maternelle, évidemment, il y a quelque chose où être loin de chez soi, enfin, c'est une expérience totalement déréalisante. Alors, en plus, lorsqu'on prend un autre prénom ou un autre nom, qui est celui, effectivement, de son double, qui est celui de la clandestinité, de l'anonymat, de disparaître à l'intérieur de soi-même, d'une certaine manière, ça crée une forme de schizophrénie. Et si Antoine il ne parle pas, c'est justement d'abord parce que c'est trop douloureux, et ensuite parce que s'il commence à raconter, s'il commence à faire le lien entre celui qu'il est aujourd'hui et celui qu'il était hier,
c'est accepter d'une certaine manière le fait qu'il ne rentrera pas. Enfin, c'est-à-dire que le fait de ne pas du tout parler de son passé lui permet de vivre entre parenthèses. Et c'est le problème de cette histoire d'amour, c'est que lui, il la vit un peu entre parenthèses, même s'il est très amoureux. Par ailleurs, il a aussi un secret qu'il cache. Et ça, on le saura qu'à la fin, donc je ne vous le dévoilerai pas. Vous écrivez, l'Argentine semblait être un pays que l'on ne pouvait incarner que comme émigré ou comme immigré. C'était le nouveau monde, le monde hors du monde, le monde de l'exil et de l'exil intérieur.
Théa est-elle aussi une sorte d'exilée intérieure dans la mesure, elle, en revanche, où elle ne connaît pas son histoire. Mais une histoire qui est aussi une histoire d'exil, puisque c'est l'histoire de ses parents qui ont fui l'Algérie, puisque c'était des Algériens français, et qui sont partis après la guerre. Et qui n'en parle pas non plus, pas plus que Antoine, qui ne parle pas ni de leur passé ni de leur pays, alors que c'est une blessure intime très profonde. Donc Théa est aussi exilée d'une certaine manière de sa propre histoire parce qu'on lui donne pas accès à cette histoire. Et il me semble que lorsqu'on n'a pas accès à sa propre histoire, c'est très difficile de se construire. Enfin, c'est très difficile de commencer à devenir quelqu'un. Quoi.
Alors pour ce faire, Joseph, elle écrit, elle prend la plume et elle note. Est-ce que au fond, c'est pas la littérature finalement qui lève les secrets?
Complètement, c'est la littérature là dans ce livre, puisque c'est elle qui écrit, elle fait des études de lettres, enfin elle a une foi insensée dans les mots, elle pense même qu'ils sont salvateurs de manière sans doute excessive, mais pour elle, écrire, la fiction va être le détour pour accéder au réel. Et c'est aussi mon avis, c'est-à-dire que je pense que le réel en soi n'a pas d'existence sinon... celle qu'on lui donne, celle qu'on lui octroie à travers le langage. Dès qu'il y a une mise en récit, le réel commence à s'étoffer. Et elle va accéder au réel par les mots, effectivement, et d'une certaine manière par le détour de la fiction. Et il me semble que la fiction et le réel sont toujours très très étroitement liés. Et c'est vrai que elle n'ayant très peu, enfin étant en déficit de réel parce qu'on lui a rien raconté, qu'elle a grandi dans une banlieue parisienne où finalement elle a pas réellement d'histoire, elle s'inscrit pas non plus dans une histoire collective, et bien c'est par la littérature, par ses lectures d'abord et ensuite par sa propre écriture qu'elle va commencer effectivement à s'étoffer, quoi, à se créer sa propre histoire.
Et cette idée de littérature qui vient non seulement rompre le silence mais qui finalement assoit une existence, vous en avez fait l'expérience personnelle. Quand vous écrivez Bouche cousue par exemple ou d'une certaine façon Bon petit soldat, c'est exactement ça. Vous levez le secret de votre enfance mais ce faisant, vous vous installez dans le monde. Est-ce qu'on peut le voir comme ça?
Oui, bien sûr. Pour moi, la littérature, le travail sur les mots ont été salvateurs dans le sens où ils m'ont remis dans un réel, mais c'est aussi parce que je viens d'un lieu où les mots pouvaient être dangereux et où il fallait se taire, globalement, enfin pour dire les choses rapidement. Mais de ce fait, dès qu'il y a pu avoir une mise en mots, j'ai pu récupérer quelque chose. Et ça, c'est certain que pour moi, pouvoir écrire et avoir le droit d'écrire sur sa matière intime a été un peu le sésame pour rentrer dans le monde, enfin dans le monde au sens où on rentre dans du réel, quoi, où on commence à vivre de manière concrète.
Mazarine Pinjot, on a cherché une chanson pour votre petite Joseph, et si elle était née en 2017, je pense qu'elle aurait certainement aimé un morceau de Gotan Project. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe franco-suisse-argentin qui mêle tango et musique électronique, et c'est pour vous. We'll be right back.
España. Buenos Aires. En el puerto de Santa María del Guanay.
France Inter.
Mazarine Pinjot est avec nous jusqu'à 20h pour son roman Théa, l'histoire d'une jeune fille, Joseph, avec un E, qui se heurte à deux secrets, l'un qui touche à l'Argentine et l'autre qui touche à l'Algérie. Pourquoi est-ce que Joseph porte un nom, un prénom de garçon ?
Elle porte un prénom de garçon parce que elle porte le prénom de son frère qui est mort avant sa naissance. Donc elle récupère le prénom d'un mort et donc d'un fantôme qui va un peu hanter sa vie et surtout la vie de sa famille, enfin de ses parents. Très mauvaise idée évidemment de redonner le même prénom. Et effectivement, ce qui est étrange dans la décision des parents, c'est que à la fois elle porte le prénom de cet enfant mort, mais à la fois elle ne connaît rien de lui, c'est-à-dire qu'on ne lui en parle jamais. Elle sait qu'il y a eu cet enfant qui est enterré en Algérie, et ça commence là-dessus. Les parents partent ou rentrent, j'allais dire, en Algérie. Enfin, pour eux, rentrent en Algérie pour aller sur la tombe de leur fils sur laquelle ils ne sont pas venus depuis 25 ans. Et donc, c'est une partie de leur vie. Et la deuxième partie de leur vie commence lorsque Joseph naît, Joseph Feu, à Bourg-la-Reine. Et donc, complètement coupé de tout ce passé de ses parents où ils ont vécu une vie radicalement différente, où eux-mêmes étaient des êtres radicalement différents.
Mais d'ailleurs, ils n'en parlent pas jamais. Ils disent très peu de choses à Joseph Feu, donc l'héroïne qu'on va peut-être appeler Théa, ce sera peut-être plus simple pour l'auditeur. Et il se trouve que Théa a un lien assez fort, voire très fort avec son père, et c'est lui le dépositaire d'un secret. Pourtant, elle ne lui pose aucune question pendant 25 ans. Pourquoi elle lui pose pas de questions ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Elle ne lui pose pas de questions parce qu'elle est soumise à la loi de la famille. Elle est soumise, depuis qu'elle est enfant, à la loi tacite du silence. Et comment expliquer pourquoi un enfant ne questionne pas, ce qui est quand même la chose la plus saine à faire, mais qui dérange aussi, qui met du désordre, c'est que... Elle a accepté non consciemment, parce qu'elle l'a accepté depuis toujours, cette loi qu'il ne fallait pas parler du passé. Alors pourquoi est-ce qu'elle l'accepte ? Sans doute parce que un enfant a toujours des antennes et que les parents, dès qu'il s'agissait du passé, se refermaient comme des huîtres, il y avait de la souffrance dans leur voix, sur leur visage.
Et les enfants sont très forts pour protéger les parents.
Détectent ça, et donc accepter cette loi tacite, c'est une forme de protection, en réalité. Et comme personne n'en parlait jamais, et que moins on en parle, plus ce silence devient cancérigène, grossit comme une tumeur, et moins on ose y aller. Et voilà, c'est une sorte de cercle vicieux dans lequel elle a été prise, et c'est vrai qu'elle-même n'a jamais posé de questions et se rend compte un jour qu'elle n'a jamais posé de questions.
Alors cela dit, il y a un souci avec le secret, c'est qu'il a une vie autonome. Il en fait qu'à sa tête le secret, parce qu'il se faufile de génération en génération. En fait, il se transmet. Et Théa, dans votre livre, sent bien que quelque chose ne va pas. Elle pose pas de questions, mais elle sent qu'il y a quelque chose quand même qui coince. Est-ce que, Mazarine Pinjot, on transmet malgré soi ? Est-ce que la seconde génération ne va pas recevoir, même malgré elle, le secret qu'on a pourtant tenté d'étouffer avant ?
Ah oui, je suis convaincue de l'héritage transgénérationnel du secret, du trauma. Je pense que les choses sont d'autant moins dites, qu'elles sont d'autant plus héritées, sauf qu'elles sont pas symbolisées, pas mises en mots, et donc elles en deviennent meurtrières. Et je pense que c'est ça, lorsque je dis j'y crois profondément, c'est pas de l'ordre de la croyance, ça s'est vérifié évidemment. On sait bien comment la transmission du souvenir de la Shoah, que ce soit à travers le silence des rescapés ou au contraire le trop plein de paroles, donne de toute façon des résultats tragiques sur la deuxième et surtout la troisième génération. Et lorsque la transmission est faite dans le silence, c'est-à-dire que rien n'est dit, il y a du simple. On le sait, on a pu en attester, le voir. Et donc, il me semble évident qu'un secret, c'est pas parce que les générations passent qu'il s'évanouit. Au contraire, il continue son travail de sape. Et tant qu'il n'émerge pas d'une manière ou d'une autre, il crée du symptôme.
Alors, ce père, donc, lui, il vivait avec les Algériens en Algérie depuis sa naissance, parlant la même langue. Il allait même jusqu'à considérer que les vrais étrangers, entre guillemets, c'était le français de la métropole. C'est ça un peu son histoire. Et puis, je vous cite, « Une fois qu'on vous met des armes dans les mains, et une fois que vous les utilisez, c'est trop tard. Vous faites partie du camp des bourreaux. » Est-ce que ça s'appelle se trouver du mauvais côté de l'histoire ?
Ah oui, complètement. Le père s'est trouvé du mauvais côté de l'histoire. Pas de manière volontaire. Il s'est laissé entraîner dans cette histoire. Mais une fois qu'il a effectivement tué, puisqu'il était dans un contexte de guerre, pour légitimer ce premier acte, pour donner sens à cet acte qui n'en a pas, il a dû devenir plus radical que les radicaux. Enfin, c'est, en tout cas, c'est comme ça que son rapport à sa propre histoire s'est construit. Ça aurait pu être autrement, mais en l'occurrence, c'est celui-ci. Raison pour laquelle il se tait, raison pour laquelle il n'ose pas revenir là-dessus, parce que de toute façon, il ne sera pas entendu, pas écouté, et qu'en plus, c'est honteux. Enfin, il porte la honte sur lui.
Alors à l'époque, l'état d'esprit, c'était ça.
L'Algérie a fait des obsèques solennelles aux victimes de la vague d'attentats qui, dans la nuit du 1er novembre, a déferlé sur divers points du territoire. Au cours d'une trentaine d'attaques, 7 personnes avaient trouvé la mort. À bord d'un hélicoptère, l'envoyé du ministre de l'Intérieur survolait la région de l'Aurès, principal foyer de l'agitation. Dans ce vaste trapèze, où les djebels stériles alternent avec les vallées riantes, près de 3000 fellagas tentent aujourd'hui de tenir en échec les forces de police.
Pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on a tué, incendié, provoqué l'émeute et le désordre. Crimes odieux contre d'innocentes victimes, crimes absurdes et qui seront châtiés car celui qui emploie de tels moyens doit savoir qu'il sera frappé à son tour. L'Algérie, c'est la France et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne.
On est début décembre 1954 et c'était François Mitterrand qui était alors ministre de l'Intérieur. La parole officielle, en tout cas, posait comme admis officiellement que l'Algérie ne pouvait être finalement que française. Le discours ambiant, c'était ça.
Bien sûr, tout le monde ne disait pas ça. Il y en avait qui étaient quand même pour l'Algérie algérienne. En l'occurrence, pas mon père à cette époque-là, et comme beaucoup de socialistes. Et d'ailleurs, l'un des personnages dans le livre était lui-même d'extrême gauche. Et Burgo, pour ne pas le citer, enfin dans Théa, et qui est un camarade du père de Joseph. Et à l'époque, la grande avancée, si vous voulez, c'était un homme, une voix, égalité des Algériens et des Français. Il n'y avait pas de raison qu'il y ait un traitement de faveur pour les Français. Bon voilà, ils se sont trompés. Ils n'étaient pas dans le sens de l'histoire, ou en tout cas en retard d'une marche par rapport au sens de l'histoire. Pour autant, évidemment, il était pas seul dans ce cas.
Bien sûr, et se pose aussi la question de la réception de ce genre aussi d'attitude. Quand, par exemple, Henri Allègue a fait paraître son livre La Question en 1958, alors qu'il révélait la torture en Algérie, c'est un autre degré, l'accueil a été celui-ci.
À Paris, la police judiciaire a procédé à la saisie du livre d'Henri Allègue, La Question. Cette saisie a été effectuée sur commission rogatoire du tribunal militaire qui avait ouvert récemment une information pour, je cite, « participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale ».
Et plus tard, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est comme si on avait eu « surtout on ne veut pas entendre les torturés ». Ensuite, on veut surtout pas entendre la parole des tortionnaires. Et justement, le père de Joseph, dans votre livre, il a honte, mais, je vous cite, pas la honte de ce qui s'était passé, une honte engendrée par la société d'aujourd'hui qui refusait d'écouter ce type de récit, le récit de ceux qui avaient perdu, le récit des tortures, le récit des bourreaux. Pour vous, pour raconter une guerre, en fait, il faut entendre les victimes et les bourreaux. Il faut entendre les deux parties.
Lorsqu'on écrit des livres, et pas des livres d'histoire ou des livres politiques, ce qui intéresse, c'est pas de porter des jugements ou de se faire la voix de son époque, qui aujourd'hui, je trouve, a le jugement très facile et très rapide. Les jeunes procureurs sont légion. Ce qui est intéressant, c'est de voir évidemment la complexité des choses, c'est d'essayer de revenir au plus près des êtres sans les juger, même s'ils ont une noirceur en eux, même s'ils se sont trompés. C'est pas très intéressant d'avoir un regard surplombant sur ces personnages. Et puis, ça serait pas très, très littéraire ni romanesque. La morale, je trouve qu'on est, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une nouvelle normativité morale extrêmement inquiétante. C'est difficile d'être libre, je trouve que c'est pas très, très intéressant, le romancier peut pas travailler avec ça. Maintenant, pour raconter une guerre, évidemment, il me semble que les deux côtés sont tout à fait intéressants. En l'occurrence, ce personnage du père de Joseph, c'est un jeune gars qui s'est retrouvé là-dedans à 22 ans et qui, effectivement, a été du mauvais côté parce qu'il se sentait chez lui en Algérie. C'est à la fois une victime de l'histoire et en même temps c'est un bourreau aussi. Et malheureusement on est souvent les deux à la fois. Et ça c'est compliqué. Mais sur la question de la réception à l'époque, des révélations sur la torture et puis ensuite le contre-coup que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est très difficile d'en parler aujourd'hui. Et moi-même je suis assez mal placée dans la mesure où on était en guerre. Enfin, donc c'était le contexte de guerre pour notre génération. C'est très difficile à pouvoir en rendre compte. C'est vraiment par les livres des témoins qu'on arrive à comprendre les nuances, enfin comment ça se passait, l'atmosphère, l'ambiance, les violences, etc. Et c'est vrai que nous, on a été épargnés par ça. Donc le contexte de guerre, il faut d'abord se le rappeler pour pouvoir recontextualiser en fait les choses. Je trouve qu'on manque beaucoup de contextualisation. Voilà. Mais ensuite, moi, ce qui m'intéresse effectivement dans ce livre, c'est les vaincus de l'histoire, c'est ceux qu'on n'entend pas, c'est les anonymes. Et pour autant, j'en fais pas du tout des héros. Enfin, je considère que effectivement, ils se sont trompés.
Mazarine Pinjot, il est temps de nous livrer vos secrets à vous. Il n'y a pas que les personnages de vos romans qui lèvent le voile. Ça rime avec procès-verbal. Votre nom,
Pinjot Mitterrand.
Votre prénom,
Mazarine.
Vous écrivez assise, couchée ou debout?
Assise.
Sur ordinateur ou sur papier?
Ordinateur.
Chez vous ou au café?
Chez moi.
Oula, la réponse est donc. Grand silence ou musique?
Ça dépend, les deux.
Ça dépend de quoi? De votre état?
Ouais, ça dépend de l'humeur. J'aime bien le silence, mais j'aime bien parfois travailler avec de la musique classique.
Musique
sans parole.
Classique, ouais. Sans parole. Quand vous levez la tête de votre bureau, qu'est-ce que vous voyez?
Ma cuisine, en général plutôt dans ma cuisine.
Quand vous écrivez, vous êtes habillée en pyjama pilou ou au contraire c'est maquillée, apprêtée, coiffée?
Plutôt pyjama pilou, mais il n'est pas en pilou, il est plutôt en flanelle, très sexy, d'une coupe parfaite.
Votre pause, P-A-U-S-E, elle ressemble à quoi?
Café. Malheureusement, j'ai arrêté de fumer, donc c'est hyper dur de faire des pauses.
Je vous comprends. Qu'est-ce que vous faites quand ça vient pas?
J'essaye de m'arranger pour que ça vienne, c'est-à-dire que si ça vient pas, je suis pas devant mon écran, je fais autre chose.
Merci Mazarine Pinjot, vous êtes libérée du procès-verbal et puisqu'une partie de votre roman se passe dans les années 60, place à l'inspiration yéyé avec Panique du groupe Junior.
Ça me fait froid dans le dos, je perds mes moyens, j'ai plus de mots. Quand dans ce grand bain, ce bain de fou, je sens soudain que je coule. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'ai plus rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Je te vois, je panique. J'ai des frissons, j'ai des goûts. Le cœur qui cogne dans ma poitrine. Quand dans ce trou noir de monde, je sens tout à coup que je tombe. Je retiens mon souffle, je me retiens. J'ai plus rien, c'est physique. Comme un choc électrique. Comme un choc électrique.
Vous écoutez la Musebouche sur France Inter jusqu'à 20h avec Mazarine Pinjot pour son roman Théa, l'histoire d'une jeune fille qui a grandi dans le secret. Et s'il y a bien une profession vendeuse de secrets, c'est celle des libraires. Oui, puisque chaque livre non lu au fond est un mystère. Alors, je ne sais pas pourquoi Mazarine Pinjot, les libraires, c'est très bizarre, ils ont pris l'habitude d'appeler à ce...
What a coincidence.
C'est très bizarre. Allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors attendez, à votre voix, je peux peut-être lever le secret de votre identité rien qu'avec votre bonsoir. Je dirais que vous êtes, voyons, ça sent la bretonne ce bonsoir. Ah. Emmanuel Georges de la librairie Goualarne à Lannion.
Tout à fait, j'appelle pour l'apéro.
Bah bonsoir Emmanuel, vous faites bien, soyez la bienvenue. Quelle est la situation, Emmanuel, la plus farfelue ou la plus émouvante que vous avez connue dans votre boutique?
Figurez-vous qu'il y a quelques années, Cabu devait venir dédicacer à la librairie.
Ouais.
Et puis, pas de chance, la rencontre avait été annulée. Peu de temps après, sans doute pour s'excuser, son éditeur nous avait offert un exemplaire de son livre que nous avions mis à disposition de nos clients comme exemplaire de démonstration. Les années ont passé, et puis, juste après les attentats de janvier 2015, il se trouve que j'ouvre à nouveau ce même exemplaire et je découvre ce que personne n'avait jamais vu jusque-là. Sur la page de garde, il y avait une chouette dédicace de Cabu à mon attention. Mmh. Et la caricature était ressemblante, alors qu'il ne m'avait jamais vue. Imaginez mon émotion face à une telle surprise. Et en même temps, je trouve que cette découverte en différé, c'est un sacré joli clin d'œil de la vie, non?
Oh bah, vous nous mettez les larmes, là, Emmanuel. C'est magnifique comme histoire, non, Mazarine Pinjot?
Ah bah ouais.
Et alors, quel roman conseilleriez-vous à Mazarine Pinjot, notre invitée?
Alors, je lui conseillerais l'excellent roman d'Alexandre Seurat.
Ah, j'aime bien
Alexandre. Il s'intitule « L'administrateur provisoire » qui a paru aux éditions du Rouergue à l'automne.
Ah bah très bien. Et qu'est-ce que ça raconte?
Alors, c'est un jeune narrateur qui, suite à la mort subite de son frère, se surprend à réfléchir à un sacré secret de famille.
Ah,
il interroge ses proches.
Ouais.
Et face à leur silence, il va mener sa recherche aux archives nationales et découvrir que son arrière-grand-père a participé à la confiscation des biens juifs durant l'occupation en tant que administrateur provisoire. Mais cet homme ne s'est pas contenté de gérer en bon père de famille les entreprises de ses administrés.
Et c'est comme ça que la génération suivante se retrouve dépositaire d'un secret bien lourd à porter.
Et dans ce roman, bien des documents sont authentiques.
Merci Emmanuel. Vous nous rappelez le nom du roman d'Alexandre Seurat ?
L'administrateur provisoire.
Et c'est aux éditions du Rouergue.
Tout à fait.
Merci Emmanuel de la librairie Goualarne à Lannion. Et puis merci au magazine Page, la revue des libraires qui est partenaire de cette émission. Emmanuel, on vous attend pour un verre de cidre et puis on boira la santé de Cabu.
Merci, j'arrive tout de suite.
À tout de suite. C'est l'heure des inavouables. Mazarine Pinjot, on peut être la reine des secrets, hein, comme vous. Eh ben, on n'en est pas moins femme. Oui, madame. Donc, faillible. Est-ce qu'il y a un film, un livre, une série ou une chanson cataloguée un peu ringard, un peu kitsch, que du coup, vous aimez en toute discrétion?
Bah, en toute discrétion, non. Parce que si
vous
parlez de Grease, par exemple, qui est un peu le film de magie. Oui. Je le clame haut et fort. Enfin, je revendique cette passion. Ça a béni toute mon enfance, mon adolescence, et maintenant je le revois avec mes filles, et je kiffe toujours autant John Travolta. Quoi.
Et on vous comprend. Et on bouge les épaules. Mazarine Pinjot est en train de danser. Sorti en 1978, alors Olivia Newton-John, qui avait à peu près 30 ans à l'époque, joue une lycéenne qui en a 18.
Bon, ça
faut
va.
Le dire, faut le dire. Faut
ah,
le dire.
Mais voilà, vous êtes vraiment vilaine.
Mais non, c'est comme
casser
nous.
Les mythes.
C'est comme nous.
On pourrait très bien jouer une fille de 18 ans.
Absolument,
franchement.
C'est comme nous. Est-ce qu'il y a Mazarine Pinjot, une série ou aussi un peu inavouable?
Alors, la série un peu inavouable, là, pour le coup, c'est peut-être un peu plus inavouable, c'est Santa Barbara, Santa Barbara.
Santa Barbara, qui me dira
pourquoi j'ai le mal de vie.
Santa Barbara, je ne sais pas.
J'ai générique en français qu'on croirait chanté par François Valéry, mais pas du tout, chanté par Gilles Sinclair. Alors moi je me souviens quand même de l'héroïne prénommée Kelly, qui est rien d'autre que Robin Wright Penn.
Bien sûr.
Alors maintenant Robin
quand
Wright
même,
tout court, classe, voilà, qui était Kelly et qui était avec
Joe.
Qui avait été emprisonné.
Ouais, oui, absolument.
Et vous écrivez dans Théa, votre dernier roman, Mazarine Pinjot, je vous cite, « J'avais cette habitude, chevillée au corps, de regarder des émissions débiles. Je connaissais ma propre addiction. »
Voilà. Hein? Ouais, mais c'était pas trop la mienne, en fait. Enfin, moi, j'étais vraiment accro à Santa Barbara, mais en revanche, j'ai loupé toutes les émissions d'enfance plus petites. Ce qui fait que je n'ai aucune référence commune avec ma génération et que je suis très très malheureuse.
Sauf Santa Barbara.
Bien sûr.
C'est une vraie référence.
C'est arrivé plus tard.
Est-ce qu'il y a un classique qui vous tombe des mains ?
Alors, un classique qui me tombe des mains, il y en a plusieurs, mais... Et j'avoue que j'ai jamais terminé La Condition Humaine.
Et pourquoi ?
Je sais pas, ça m'ennuyait, mais un point. Alors, j'ai pas réitéré, peut-être que si je le reprenais aujourd'hui, ça irait beaucoup mieux, mais à l'époque où je l'ai lu, je sortais de l'adolescence. Je trouvais que la langue était empoulée, que c'était d'une lourdeur, que c'était naïf. Enfin, je détestais. Mais bon, maintenant, c'est peut-être très injuste de ma part, mais j'ai jamais réessayé d'ouvrir un bouquin de Malraux parce que j'en ai un très mauvais souvenir.
Eh ben, il y en a un autre qui était allergique à Malraux et qui s'appelle François Mitterrand.
Comme si bizarre.
Son libraire, chez Gallimard, de 1983 à 1996, se souvient de chaque fois où il arrivait.
Il aimait pas trop qu'on lui donne de conseils, hein, de toute façon, il savait ce qu'il voulait. Une fois, j'ai eu le malheur de lui proposer un Malraux, il m'a dit « Ah non, Malraux, c'est pas un écrivain !» Enfin bon, oula, je suis rentré dans ma coquille.
C'est drôle.
Malraux, c'est pas un écrivain, c'est un documentaire qui date de 2016. Oh là là. Ouais, vous voyez, je vous l'apprends ou pas?
Non,
vous saviez.
Ouais. Non, je savais qu'il aimait pas trop, mais j'avais jamais entendu cette archive.
Il est temps de ranger les amuse-bouches et de passer à table. Venez avec vos secrets, vos reculs, vos silences, ils valent de l'or. La preuve avec Théa de Mazarine Pinjot, paru chez Julliard. La semaine prochaine, nous recevrons Didier Decoin pour le Bureau des Jardins et des Étangs, paru chez Stock. L'amuse-bouche doit son mystère à Marie-Annick Rimbaud, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Pierre-Yves de Rolin. Juste après nous, ce sera D'ici d'ailleurs de Zoé Varier. Bonne semaine Mazarine.
Bonne semaine Clara.
N'oubliez pas de ne rien révéler si vous avez envie de ne rien ébruiter, de chuchoter. À samedi, je vous embrasse.